commencer par mon passeur préféré, du collectif.
Ça commence bien.
Qui est là depuis le début, de santé, et qui est aussi président de la commission d'éthique protestante évangélique.
Waouh.
Et ouais. Bienvenue Luc.
Merci. Merci. Cet accueil. Alors, une parole d'un psaume pour ouvrir cette journée à la lumière de la parole de Dieu. Le psaume de ce jour, c'est un psaume de confession des péchés. Le psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. On voit ici la souffrance de la faute et la guérison qui vient du pardon que Dieu accorde. Alors ça nous introduit à cette question de la guérison et je me permettrai d'inverser le titre. Prêt à tout pour guérir, l'hypnothérapie. Je me permets d'inverser le titre, qui était l'hypnothérapie prête à tout pour guérir, parce que il me semble que le fond du questionnement de cette journée, c'est bien celui de la guérison, de sa quête légitime et des moyens légitimes ou pas pour y parvenir. Et ce questionnement, il s'inscrit, me semble-t-il, dans le foisonnement des offres thérapeutiques, plus ou moins parallèles. Et ce foisonnement, il vient interroger les chrétiens, mais aussi les professionnels de santé. La médecine classique, d'ailleurs, ne promet pas la guérison. Elle promet d'aider le malade à guérir, de combattre la maladie, de prendre soin du malade. Mais elle ne promet pas la guérison. Un médecin protestant, le docteur Schlamer, définissait la médecine comme l'art d'aider l'organisme à se guérir. Mais quand la médecine classique semble impuissante, on voit parfois les patients se tourner vers des médecines parallèles qui offrent des promesses de guérison. Et il est légitime de s'interroger devant le foisonnement des offres thérapeutiques, d'autant que certaines d'entre elles, même beaucoup, semblent assez ésotériques. Alors, les offres thérapeutiques liées à une religiosité ésotérique ou New Age répugneront à la fois aux chrétiens et aux esprits rationnels, ce qui n'est pas incompatible. Mais le chrétien se posera une question supplémentaire. La question du diable, et je ne voudrais pas l'éviter. La question du diable et de ses moyens de séduction. On ne doit pas écarter cette question d'un revers de main à cause des excès de peur superstitieuse. Le diable existe bel et bien et a une influence limitée mais réelle. Il ne faut pas lui accorder trop d'importance en diabolisant tout ce qu'on ne comprend pas, mais il faut quand même se poser la question. Je signale le livre du théologien baptiste Alain Issus, tout récent, qui s'appelle « Mais délivre-nous du mal » et qui met en garde contre le danger d'adémonologie pratique, d'adémonisme pratique, dit-il. C'est-à-dire que, oui, je crois que les démons existent, mais en pratique, En pratique, je n'envisage pas. Alors, le choix de l'hypnose comme exemple m'a d'abord surpris. Alors, peut-être je dirais tout de suite, pour mettre à l'aise ma thèse, c'est que l'hypnose fait partie des ressources d'auto-guérison données par le Créateur. Voilà, je vous livre tout de suite la conclusion, donc ça va mettre tout de suite tout le monde à l'aise. Je ne classe pas du tout dans le démonisme. Alors, d'abord, le choix de l'hypnose m'a un peu surpris. Alors, c'est vrai que c'est très à la mode maintenant comme médecine complémentaire, surtout pour le traitement de la douleur. Mais je me suis dit, pourquoi choisir l'hypnose parmi ce foisonnement des thérapeutiques alternatives ? Et je me suis dit, en lisant ce livre d'un médecin qui est à la fois docteur en médecine, en philosophie, en théologie, qui s'appelle Pascal Hyde, des ressources pour guérir, comprendre et évaluer quelques nouvelles thérapeutiques, hypnose ericksonienne, EMDR, etc. Eh bien, il prend l'hypnose comme matrice de ces nouvelles thérapies. Bref, ça c'est très intéressant, ça m'a, ce raisonnement m'a un peu surpris, mais j'ai trouvé qu'il était assez convaincant dans ce... cette définition de l'hypnose comme une matrice de ce qu'il appelle les thérapies de ressources, les thérapies qui font appel aux ressources intérieures du sujet, notamment le pouvoir de l'imagination. Alors voilà, hein, ces ressources, ces thérapies brèves, je pense aux thérapies comportementales et cognitives, EMDR, etc. Mais alors comment évaluer, la question vient aussitôt, comment évaluer toute cette offre thérapeutique de ces thérapies brèves par exemple. Alors Pascal Hyde dans son livre propose une distinction que je trouve très utile, la distinction entre technique et doctrine. Cette distinction avait déjà été posée à propos de la psychanalyse. Par un philosophe catholique. Il distinguait la méthode psychanalytique de la doctrine de Freud. Et c'est vrai qu'on peut effectivement utiliser la technique de l'association libre, qui est une technique psychanalytique, sans être obligé d'adhérer à la doctrine athée, par exemple, à l'athéisme de Freud. Et je trouve que voilà, c'est une distinction qui est assez éclairante, et je voudrais prendre plusieurs exemples. L'acupuncture. Il y a un très intéressant essai clinique mené en Allemagne en 2007 sur une cohorte de 200 à 1000 patients pour évaluer l'efficacité du traitement de l'acupuncture dans le traitement des douleurs chroniques, migraines, lombalgie, arthrose, etc. Donc il y avait trois groupes témoins, dont un des groupes témoins a reçu une fausse acupuncture. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a piqué les gens à côté des points méridiens traditionnels de la médecine chinoise. Or, on s'est aperçu, les résultats, c'était que ceux qui avaient reçu une fausse acupuncture avaient des résultats égaux ou un peu légèrement inférieurs à ceux qui avaient reçu une véritable acupuncture. Donc là, la doctrine, en quelque sorte, des méridiens semble plutôt ne pas être validée, mais la technique a une certaine efficacité. Alors on pourrait dire que c'est une efficacité placebo, hein, un effet placebo, mais vous voyez, ça fonctionne aussi. Alors on peut se demander cependant s'il n'y a pas des doctrines thérapeutiques qui sont tellement importantes qu'elles invalideraient les techniques, hein, qu'on ne pourrait pas recourir à la technique sans être lié à la doctrine. Par exemple, il y a des thérapeutiques qui ont inclus une vision de l'homme, une anthropologie. Alors, sur ce point, il y a une différence très intéressante entre l'anthropologie freudienne et l'anthropologie des thérapies brèves, qui souvent se sont opposées d'ailleurs à la psychanalyse. L'anthropologie freudienne est pessimiste. Malaise dans la civilisation, Eros et Thanatos, hein, avec le concept de pulsion de mort. Or, les anthropologies des thérapies brèves sont optimistes. Elles ont une vision optimiste de l'homme. L'homme a en lui toute la capacité de se guérir. Alors, est-ce que cet optimisme anthropologique ne viendrait pas heurter l'anthropologie et la théologie chrétienne? Est-ce que ça invaliderait le recours à cette technique? Alors, il me semble que non, dans la mesure où on peut recourir à des techniques sans adhérer à une anthropologie. Le problème, ce serait quand on ferait d'une technique thérapeutique une vision globale du monde. Et je pense, par exemple, à la méditation pleine conscience et à la façon dont elle est mise à toutes les sauces et dont parfois on a l'impression qu'elle pourrait apporter la paix dans le monde. Donc là, ce serait une vision globale qui, à mon avis, serait une dérive. Mais ça n'induit pas la question de la validation de la technique. Alors, je dirais qu'en fait, l'anthropologie chrétienne n'est ni pessimiste ni optimiste. Elle est réaliste. Elle est réaliste parce que elle est réaliste sur l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même. Mais elle est réaliste aussi dans le fait que Dieu a préservé de bonnes choses en l'homme. Dieu a préservé aussi des ressources positives dans l'homme, dont ces ressources d'auto-guérison, dont l'hypnose fait partie. Alors, je crois quand même qu'il faut interroger la vérité des techniques thérapeutiques. On ne peut pas se contenter d'avoir une vue pragmatique en disant « puisque ça marche, je l'utilise ». Le pragmatisme, c'est une doctrine. C'est une doctrine qui consiste à dire « la vérité, c'est que ça marche ». Mais ça évite la question du bien et du mal, du vrai et du faux. Et donc, je pense qu'on ne peut pas se contenter là de pragmatisme. Et il y a une question, il faut bien poser la question de la vérité dans les techniques thérapeutiques. Alors, cette question de la vérité, on peut la poser sur un plan déjà scientifique. Est-ce que cette thérapeutique est basée sur des faits? Est-ce qu'elle a des preuves? Est-ce qu'elle remplit les promesses? Elle accomplit ce qu'elle promet? Mais l'homme ne vivra pas de vérité scientifique seulement. Il a besoin aussi d'espérance. Et c'est là que parfois on peut demander davantage à une technique que ce qu'elle peut donner, et on peut y mettre son espérance. Et là, je crois que ça c'est aussi un critère. Aucune thérapeutique ne doit nous détourner de l'espérance finale qui est en Christ. Hein, même si, encore une fois, la foi chrétienne ne s'oppose pas au recours à ses ressources intérieures. Mais il ne faut pas qu'elle nous en vienne à remplacer l'espérance qui est dans le Christ, la vérité qui est dans le Christ. La vérité n'est pas en nous. L'espérance n'est pas en nous, elle est dans le Christ. Alors, guérir. Oui, n'est-il pas légitime de vouloir guérir? Selon le théologien Henri Blocher, la Bible semble fonder la valeur de la guérison d'au moins deux manières. Elle associe la maladie au mal et, je le cite, à une domination indue que le diable exerce sur les enfants des hommes. Et le fait que Dieu se présente comme le Dieu qui guérit. Alors, c'est un cadre général, global. Bien sûr, ça ne veut pas dire que chaque maladie soit liée à une faute. L'exemple classique, c'est la guérison de l'aveugle né dans Jean 9. Ni d'ailleurs que Dieu veut guérir à chaque fois. L'exemple aussi classique, c'est Paul et son écharpe dans la chair, dont on pense qu'il était probablement une maladie physique, une maladie ophtalmique. Parce qu'il dit dans la lettre aux Galates qu'il écrit avec des gros caractères. Donc voilà. Et donc Dieu répond, ma grâce te suffit. Donc la guérison n'est pas toujours la réponse de Dieu, en tout cas. Mais si Dieu ne répond pas toujours par une grâce de guérison, qu'elle soit directe ou par des moyens humains, il répond toujours par une grâce de relation qui donne la force de vivre en dépit de la maladie. Alors on peut aussi s'interroger, guérir de quoi, mais pourquoi ? Dans les évangiles, la guérison est une image du salut. Or, dans bien des nouveaux mouvements religieux, on observe une inversion. La sociologue des religions, Danielle Hervieux-Léger, fait remarquer que, alors que dans les évangiles, la guérison est une image du salut. Dans ces mouvements, au fond, c'est la guérison qui devient le salut. Le salut devient une image et la guérison devient la réalité à atteindre. Au fond, ce n'est plus ta foi t'a sauvé, mais ta guérison t'a sauvé. Dans le même ordre d'idée, quelqu'un me disait récemment, le pardon guérit. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est pas complètement faux. C'est aussi un effet bénéfique du pardon. Mais je me suis dit que c'était une psychologisation du pardon. Parce que, qu'est-ce que le pardon ? C'est d'abord le rétablissement de la relation avec Dieu et avec les autres. Ce n'est pas d'abord une guérison intérieure. Alors, bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre, mais ce qui est très frappant dans le récit de la guérison du paralytique, c'est que Jésus pardonne d'abord avant de guérir. Vous voyez, c'est par rapport à la formule « le pardon guérit », Jésus met le pardon en premier et la guérison en second. Donc, d'un point de vue biblique, la guérison n'est pas un but absolu. Blaise Pascal a bien résumé cela dans sa prière qu'il adresse à Dieu. « Je ne vous demande ni santé ni maladie, ni vie ni mort, mais que vous disposiez de ma santé et de ma maladie, de ma vie et de ma mort, pour votre gloire. » Donc je ne demande ni santé ni maladie, mais que vous disposiez de ma santé et de ma maladie pour votre gloire. Mais en attendant cette... nous attendons, les chrétiens, en fait... attendre la pleine guérison avec la résurrection du corps. Mais en attendant cette pleine guérison, est-ce que Dieu nous laisse sans ressources ? Eh bien, non, je ne le crois pas. Et c'est justement ce que j'appellerais la grâce commune. Dieu, dans sa grâce, n'a pas laissé l'humanité sans ressources d'auto-guérison partielle, mais à recevoir avec reconnaissance. Les ressources d'auto-guérison, des grâces communes pour tous les humains. Les ressources d'auto-guérison, des grâces communes pour tous les humains. Dans son article sur la guérison aperçue biblique et dogmatique, Henri Blocher fait une remarque très importante. La grâce spéciale, donc la grâce du salut, n'est pas disjointe de la grâce commune. Alors, la grâce commune, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que Dieu dispense ses bienfaits à tous les hommes. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Voilà. Donc, ces deux grâces ne sont pas disjointes. La grâce qui fait fonctionner les mécanismes d'auto-guérison de notre organisme n'est pas disjointe de la grâce spéciale. la grâce de la croix qui restaure notre création. Certes, la grâce spéciale fait plus que la grâce commune, mais elle ne fait pas moins. Elle défait les œuvres du diable et permet de retrouver l'intégrité perdue. La grâce commune maintient en partie ce qui était un don de la création. La grâce spéciale nous la rend totalement. Alors, c'est en espérance, hein. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous attendons encore, comme le dit Paul, la rédemption de notre corps. Alors, cette remarque me paraît extrêmement importante et pertinente aujourd'hui. Cette articulation grâce commune, ressource dans la création, bonne encore, dont dispose l'homme, et grâce spéciale du salut. Parce qu'il me semble qu'elle permet, articuler les deux, permet d'écarter deux dangers. Le premier danger, c'est de réduire l'être humain à ses ressources. À ses ressources qui sont donc des dons de Dieu, qui ne sont pas à négliger. Mais de le centrer sur ses ressources d'auto-guérison. L'autre, au point de perdre de vue le fait qu'on a encore besoin d'une guérison totale, que la guérison totale est encore à venir. Alors l'autre danger, donc, il serait de négliger la grâce commune. Donc là, ce serait de tellement valoriser les ressources humaines d'auto-guérison, d'abord qu'on en oublie, c'est une grâce à recevoir de Dieu, et puis que cette grâce, eh bien, en vienne à faire oublier la grâce du salut, de la guérison totale. Et l'autre danger, ce serait un danger spiritualiste, dire il n'y a que la grâce du salut, donc de mépriser les ressources de la grâce commune d'auto-guérison de l'être humain. Alors, il y a, on peut dire, donc, deux catégories que j'ai mentionnées. La grâce commune pour tous les hommes, ces ressources d'auto-guérison que Dieu maintient en l'homme. Et puis la grâce spéciale, le salut, cette guérison totale qu'il promet. Mais il y a une troisième grâce qu'on pourrait appeler la disgrâce. Ce sont des guérisons qui ne viendraient pas de Dieu, mais du diable. Donc j'appellerais ça des disgrâces de guérison. À côté de ces deux catégories communes, grâce spéciale et grâce commune et grâce spéciale. Alors Henri Blocher, dans cet article, envisage cette catégorie qu'il appelle la grâce permissive, c'est-à-dire que Dieu permet, tolère que même le diable fasse des miracles. Même les démons fassent des miracles. Et il est question, par exemple, dans la lettre aux Thessaloniciens, de prodiges mensongers de l'Antichrist. Dans l'Apocalypse, la bête qui est une figure de l'Antichrist s'auto-guérit. Alors, bénéficier de ces guérisons d'origine douteuse est une disgrâce. Et je voudrais citer ici le témoignage de Marie-Joseph Verlinde, qui est un prêtre lyonnais. Un témoignage qui est très impressionnant parce qu'il a une formation scientifique et philosophique. Alors lui-même a été initié au yoga à un très haut niveau et en Inde. Et puis quand il est revenu, il s'est installé à Lyon, il s'est aperçu qu'il avait un don de guérison. Et donc il a fréquenté ces milieux lyonnais, ésotériques un petit peu, et puis de guérisseurs. Et puis un jour, il a eu très très peur, parce qu'il a eu l'impression qu'il y a des démons qui essayaient de rentrer en lui. Il a eu la peur de sa vie. Il est rentré dans la première église à Lyon qu'il a trouvée, et puis il va voir le prêtre. Et puis il lui explique, le prêtre dit, vous tombez bien, je suis le prêtre exorciste du diocèse. Mais alors, ce qui est très impressionnant, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, et il est très analytique sur son expérience, et c'est qu'il dit qu'il a, fait cette prière, il a demandé à Dieu, Seigneur, si ce don de guérison me vient de toi, que je le garde pour le mettre au service de mes frères. Mais si ce don ne vient pas de toi, ôte-le-moi. Eh bien, il a perdu ce don de guérison. Et ça a été terrible parce que quelques temps après, sa mère est tombée malade, et puis son entourage, mais alors non, il n'a pas pu... Donc, voilà, ça, si vous avez l'occasion d'écouter son témoignage, c'est vraiment très impressionnant. Il montre, il y a des phénomènes aussi, il montre qu'il y a des phénomènes de dépendance qui se créent par rapport à des guérisseurs, où on vient, on est guéri de quelque chose, mais en fait, on va revenir pour autre chose, voilà, qu'il y a des effets collatéraux aussi sur les proches. Voilà, alors sans généraliser, mais voilà, c'est aussi, ce sont aussi des choses qui, cette disgrâce de guérison qui existe. Alors, je voudrais terminer par un exercice de discernement, après avoir posé ces catégories, sur l'hypnose elle-même, sur l'hypnothérapie. Alors, première question, la source de l'hypnose. Eh bien, c'est une capacité que Dieu a mis en tout homme, c'est la capacité à imaginer. Rien de diabolique là-dedans, c'est un don du Créateur. Tout juste trouvera-t-on dans la Bible une mise en garde contre les excès de l'imagination. C'est dans l'Ecclésiaste 5, chapitre 5, verset 2, je cite la traduction Nouvelle Bible Second, « Car dans la multitude des rêves, il y a des futilités ». Alors, il y a un problème, une difficulté de traduction, mais voilà, je vous passe là, je retiens cette traduction-là. En tout cas, que voilà, dans l'abondance des rêves, il y a un danger de futilité, de folie. Alors, donc, une source qui me semble être placée en nous par le Créateur. La technique elle-même. Il ne faut pas attribuer une puissance magique à l'hypnotiseur. J'en discutais avec un thérapeute qui utilise l'hypnose et qui me citait l'exemple assez amusant d'une femme qui était sous hypnose et l'hypnotiseur lui demande de se déshabiller. Elle se réveille et lui met une gifle. Vous ne pouvez pas aller contre les valeurs d'un sujet sous hypnose. Hein, vous ne pouvez pas faire à quelqu'un sous hypnose quelque chose qui va contre ses valeurs. Et alors ce thérapeute me disait une chose très intéressante, c'est qu'on peut mentir sous hypnose. Ça c'est très surprenant. On peut mentir sous hypnose et il s'est aperçu une fois qu'un de ses patients lui mentait sous hypnose et il m'a dit ça c'est un signe. C'est un signe que le thérapeute est allé trop loin. Donc il sort à une résistance et donc là il doit respecter cette résistance. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir une vision du tout magique de l'hypnose comme une technique toute puissante. Alors bien sûr, il y a la question de la déontologie de l'hypnothérapeute. L'hypnothérapeute doit, comme dans toute thérapie et en particulier les thérapies qui concernent des personnes vulnérables, respecter une déontologie fondée sur le respect de la personne. Alors, ce respect de la déontologie est d'autant plus important qu'on s'est aperçu, c'est un spécialiste de l'hypnose qui s'appelle Antoine Bioy, qui est professeur de psychologie clinique, qui dit, alors il parle au conditionnel, par rapport au fait qu'il y ait certaines personnes qui sont facilement hypnotisables, eh bien ces personnes auraient des liens d'attachement insécures. En fait, ce seraient des personnes qui seraient en insécurité affective. Et l'hypnotiseur ferait alors office de figure d'attachement protectrice. Figure d'attachement protectrice. Donc vous voyez le poids, là aussi, hein, l'hypnothérapeute doit vraiment respecter une déontologie, un respect de la personne. Et si vous lisez une biographie, il y a des éléments biographiques sur le fondateur de l'hypnose moderne, Milton Erickson, qui c'est très impressionnant. Hein. Il montre un remarquable respect des patients et un refus d'être traité comme gourou. Il est très très clair là-dessus. Alors, donc la suggestion hypnotique ne me semble pas éthiquement ni spirituellement mauvaise, mais elle doit être pratiquée dans un cadre déontologique. Alors, à propos de la suggestion, je suis frappé par les passages sur l'annonciation dans les évangiles et la différence entre Marie et Joseph. Est-ce que vous avez remarqué la différence dans l'annonciation entre Marie et Joseph ? Vous ne voyez pas la différence ? Ah, quelqu'un avait...
Marie, c'était une vision,
oui.
Devant,
oui, oui,
éveillée,
oui.
Et Joseph était endormi. C'est pas une différence.
Tout à fait. Alors, c'est une différence, je trouve, très intéressante. Et je me suis posé la question. Parce que, mais pourquoi est-ce que Dieu a parlé directement, enfin, par le biais d'un ange, on peut dire, comme vous disiez, face à face à Marie. Et pourquoi il n'a pas envoyé un ange ? On aurait pu se dire, c'est plus direct que si Joseph avait vu un ange lui disant, ben voilà, tu dois prendre Marie. Bon, d'accord, j'ai pas le choix, Seigneur. Pourquoi lui parle-t-il dans un rêve ? Eh bien, je trouve que ça fait partie de la subtile pédagogie de Dieu, de la délicatesse de Dieu. C'est plus difficile pour Joseph, ou difficile d'une manière différente pour Joseph. Il y a une résistance, il y a une honte, il y a une peur chez Joseph. Et Dieu va lui parler dans un rêve, dans un état de moindre résistance pour Joseph. Et il va le rassurer, hein, n'aie pas peur. Alors je suis frappé d'ailleurs, si on lit ça à l'aune de la pratique hypnothérapique, c'est assez amusant là, ce que dit l'évangile. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait commandé. Oui. Vous savez qu'en hypnothérapie, on peut faire des suggestions, et là, au réveil, la personne va faire... Mais voilà, évidemment, il faut pas que... je ne voudrais pas assimiler les deux, il ne faut pas que l'hypnothérapeute se prenne pour Dieu le Père, etc. Mais ça montre que Dieu aussi, dans sa façon de traiter l'être humain, tient compte de ses mécanismes. Alors, donc les applications, les indications de l'hypnose. Alors, il y a une indication, une application qui est extrêmement documentée et vérifiée scientifiquement, c'est le traitement de la douleur. Et on l'utilise maintenant dans beaucoup d'hôpitaux, pour soit parfois comme alternative à l'anesthésie, ou soit comme traitement de la douleur. Et donc là, il y a effectivement des effets vérifiables. On a vu sous IRM que il y avait une diminution des ondes cérébrales de ces patients sous hypnose et une augmentation de l'activité du cortex singulaire antérieur qui commande la composition émotionnelle de la douleur. Et donc, comme dit l'auteur de cet article, s'imaginer souffrir moins, c'est déjà souffrir moins. Et oui, c'est le pouvoir de l'imagination. Alors, à l'extrême opposé de cette application bien vérifiée, bien circonstanciée, qui n'est pas une guérison d'ailleurs, c'est un soin. Hein, notre titre, c'est la guérison, mais souvent, on est plutôt dans le soin. On a une vision philosophique de l'hypnose qui va... être une vision globale. C'est ce qu'on appelle l'hypnose humaniste. Alors, c'est un Français, Olivier Lockert, je ne sais pas si tu en as entendu parler, hein, qui a fondé une école, qui, du point de vue technique, il est ericksonien, il n'a pas d'apport technique particulier. Son apport, c'est de développer une philosophie à partir de l'hypnose, qui est une véritable gnose. C'est-à-dire que l'hypnose donne accès à une connaissance secrète, etc. Hein, il a écrit une série de bouquins, de livres, de romans qui s'appellent, par exemple, un titre, c'est « Créateur de réalité ». Donc voilà, déjà, un voyage initiatique au cœur de vous-même. Voilà. Donc c'est la distinction entre technique et doctrine, là, s'impose. La technique hypnotique n'implique pas du tout ces développements. Et comme dit un grand spécialiste de l'hypnose, François Roustan, le pouvoir de rêver, configurer le monde et d'imaginer n'est pas un pouvoir illimité. Alors, entre ces deux extrêmes, une indication quand même très circonscrite, le traitement de la douleur, et puis une philosophie de la vie, eh bien, il y a toutes les indications de traitement psychologique pour la réduction des troubles anxieux, pour laquelle l'hypnose est indiquée. Alors, dans cet ouvrage, il y a un exemple de ce qu'on appelle la technique du pardon en hypnothérapie. Et voici ce que dit Pascal Hyde. Il dit que l'hypnose dispose de certains outils qui peuvent aider à la vie spirituelle sans bien entendu se substituer à la grâce. Donc des outils qui peuvent aider à la vie spirituelle sans se substituer à la grâce. Et il cite cette technique du pardon. Et voici l'histoire qu'il raconte. Grégoire, 48 ans, on lui donne 15 ans de plus. Il arrive, un psychiatre a diagnostiqué une dépression. Il arrive chez l'hypnothérapeute, très défait. Et donc, l'hypnothérapeute commence par le faire parler, lui faire raconter son histoire. Alors, Grégoire a été rejeté par son père. Il est en procès avec sa sœur pour des histoires d'argent. Et puis, il a subi une grave injustice dans une boutique où il travaillait comme bénévole. Un des employés de la boutique l'a giflé. Et il a fait un procès et les employeurs pour qui il travaillait comme bénévole ne l'ont pas soutenu du tout. Et donc, celui qui l'a giflé s'est fait passer pour malade et voilà. Donc, il n'a pas gagné son procès. Donc, à la fois souffrance du côté familial, sentiment d'injustice. Et donc Grégoire est très mal. Et 10 ans après, il en rêve encore de cet employé. L'employé est mort depuis. 10 ans après, il en rêve encore. Et il n'arrive pas à pardonner. Alors, ce qui est très important, c'est que le praticien, après avoir écouté l'histoire de Grégoire, lui demande s'il veut pardonner. Et Grégoire dit très nettement qu'il veut pardonner. Donc, l'hypnothérapeute le met en transe hypnotique et lui demande de revivre émotionnellement, corporellement, les situations traumatisantes qu'il a vécues, dans sa famille, cette gifle, etc. Et puis, lui demande quand est-ce qu'il est prêt à pardonner, à un moment. Et donc, quand Grégoire lui dit qu'il est prêt à pardonner, alors il lui demande d'imaginer des ciseaux. Des ciseaux, et qu'avec ces ciseaux, il va couper les liens négatifs qui le relient à ces personnes qui lui ont fait du mal. Et ensuite, le praticien lui demande de visualiser ces personnes comme étant heureuses. Et même de les bénir. Alors, suite à la séance... alors, il y a une chose assez étrange que le praticien dit quand même, mais si les bénédictions ne sont pas acceptées, qu'elles reviennent à vous. Voilà, je laisse après échanger. C'est assez curieux. Alors, après la séance, Grégoire dit « C'est extraordinaire, c'est la première fois que je me sens détendu. » Donc, un effet immédiat. « Je redécouvre les couleurs. » Le visage de Grégoire a changé, il repart marchant droit et le sourire aux lèvres. Alors, j'ai fait lire ce récit à cet ami psychothérapeute qui m'a fait remarquer qu'il lui était un peu sceptique. Et qui me disait, en fait, s'il y a vraiment un problème très profond, le problème va ressurgir. Et il pensait que par rapport au problème du père, c'était pas si réglé que cela, et que ça allait se déplacer ailleurs. Donc, par rapport à ce côté un petit peu miraculeux C'est un récit quasi, qui paraît quasi miraculeux, hein, une technique qui paraît avoir un effet miraculeux. Il faut avoir une prudence, voire un scepticisme médical. Mais évidemment, comme chrétien, comme pasteur, ce qui m'interrogeait, c'est la technique du pardon. Évidemment, le vocabulaire est un peu choquant d'associer un vocabulaire impersonnel, technique, et un vocabulaire relationnel. Le pardon, c'est une question de relation, de rétablissement des relations. Alors, je ne voudrais pas me bloquer sur la question du vocabulaire, et je peux reconnaître qu'il peut y avoir qu'une aide psychologique, comme le dit Pascal Hyde, peut ouvrir à une démarche spirituelle. Mais est-ce qu'il y a une démarche spirituelle ici ? Alors, il me semble qu'il y a, ce qui m'a gêné aussi dans ce récit, on pourra en discuter, c'est le mélange entre le psychologique et le spirituel. Et alors, je me suis demandé, est-ce que la démarche de Grégoire était psychologique ou spirituelle ? Alors, Pascal Hyde, pour lui, c'est pas un pardon psychologique. Et l'argument qu'il emploie, c'est puisque la personne a pardonné volontairement. Ça me semble pas. Alors là, il est très fort au niveau de l'argumentation, mais là, ça me semble un argument faible. La question, au fond, c'est la question de la motivation. Alors ça, on peut pas, dans un récit comme ça, on peut pas avoir accès à la motivation. On a que des indices. La question que je me poserais, c'est est-ce que Grégoire vient parce qu'il se sent mal à cause de son mal-être, ou parce qu'il a l'impression qu'il fait mal en ayant des mauvaises pensées par rapport à ces personnes. Vous voyez, dans le « il fait mal », on est dans l'éthique et dans le spirituel. Alors, tout en sachant que les choses ne sont pas aussi binaires, que dans l'esprit humain, les choses sont à la frontière spirituelle et psychologique, elle est fine. Mais, quand même, au niveau du résultat, moi, ce qui me frappe, c'est le côté émotionnel hein, de la réaction de... et uniquement émotionnel. C'est intéressant la question des couleurs, parce que les couleurs, c'est l'émotion. Hein. Le trait, c'est la cérébralité, les couleurs, c'est l'émotion. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas dans le cœur de Grégoire, donc je ne me permettrai pas de porter un jugement définitif, mais je me demande quand même si là... ce n'est pas un pardon psychologique. Et ce que je répondrai à Pascal Hyde, je dirais que oui, je pense qu'il y a des aides psychologiques, disons débloquées, hein, débloquer des nœuds psychologiques, peut ouvrir la voie à une recherche spirituelle. Parce que quand vous êtes mal, ben vous n'êtes pas forcément ouvert à une recherche. Si vous avez des problèmes de thyroïde, je pense que ça doit influencer sur votre spiritualité. Mais, je pense que ces outils psychologiques peuvent aussi fermer le chemin du spirituel. Pourquoi ? Ben parce que le chemin du spirituel, ce qui nous pousse sur le chemin du spirituel, c'est aussi nos souffrances. Je ne dis pas qu'il faille cultiver les souffrances. Mais donc, c'est pas, vous voyez, les outils, ils ne sont pas magiques. En fait, c'est tout le problème de l'utilisation des outils, ce qu'on y met derrière, ce qu'on en espère. Et si on se satisfait, on pourrait se satisfaire de ces outils psychologiques, et au fond, ça coupe le chemin à tout cheminement spirituel. Alors. Et pour le chrétien, il peut y avoir aussi un risque de confusion entre une technique et la foi. Alors, dans ce livre, Pascal Hyde raconte ceci. Une personne me confiait, depuis que j'ai découvert l'auto-hypnose, ma prière a changé. Chaque matin, je prends un quart d'heure de méditation en cet état. Je trouve ce moment très bienfaisant. La paix n'est-elle pas un fruit de l'esprit ? Alors, là, Pascal Hyde est très net. Hein. Pour lui, il y a une confusion. Il dit, il confond la sérénité et la paix. Effectivement, cette technique lui procure une sérénité, mais il dit, la paix, c'est un don de Dieu. L'auto-hypnose, c'est un dialogue avec soi-même. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Donc vous voyez, danger, et ici, là aussi, c'est pas le problème de la technique, c'est le problème de la lecture, de l'interprétation spirituelle de la technique. Alors, je ferai donc un bilan nuancé de l'hypnothérapie en reconnaissant ses valeurs et son fondement théologique dans la grâce commune, tout en mettant en garde contre une déviation dans le recours à toute thérapeutique, toute technique thérapeutique qui serait basée sur une croyance. Voilà, on n'est plus dans le bienfait, dans le soin, mais on est presque dans la foi, dans la technique. Une croyance qui nous éloignerait de mettre notre foi et notre espérance dans le Christ. Donc, voilà, je ferai un bilan nuancé et positif de l'hypnothérapie, qui repose sur des ressources du Créateur, qui a une efficacité démontrée, en tout cas comme analgésique, et voilà, qui doit s'exercer dans un cadre déontologique, mais tout en évitant tout risque de confusion avec une démarche philosophique ou spirituelle. Alors, je voudrais terminer, j'espère que oui, sur 10 thèses, c'est bref, hein, mais pour résumer un peu. Oui, tu m'as dit, il faut appuyer. Ah oui, il faut que tu le rallumes déjà. 10 thèses sur ressources thérapeutiques et guérison. Pardon ?
Je peux meubler un petit peu.
Je peux meubler un petit peu. Bon, elles vont s'afficher. Alors, première thèse, Dieu guérit. Donc, vouloir guérir est légitime. Mais, deuxième thèse, pas vouloir guérir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas par n'importe quel moyen. Car, troisième thèse, notre but ici-bas n'est pas la guérison, mais la gloire de Dieu. 4. Les techniques thérapeutiques devraient reposer sur une réalité vérifiable, apporter un bienfait réel et être pratiquées dans le respect de la personne. 5e thèse à ces techniques, ne pas leur demander de miracle. Le miracle, c'est l'affaire de Dieu. De Dieu, ou alors ça devient de la magie. Et là, ça sera ma 6e thèse, gardez-vous du malin. Se garder du malin en évitant de recourir à des thérapies dont les sources ou les pratiques spirituelles sont douteuses. 7e point, ne pas négliger la grâce commune des ressources d'auto-guérison que le Créateur nous a données. Ne pas l'opposer ni la confondre avec la grâce. 8e point, ne pas l'opposer ni la confondre avec la grâce spéciale du salut. 9e thèse, elles ne doivent pas remplacer la foi, ne pas confondre spirituel et psychologique. Enfin, 10e thèse, maintenir les yeux fixés sur Jésus, sur son retour. Est-ce que nous attendons encore la rédemption de notre corps? Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Luc. On va avoir 10 minutes de pause. On est un peu plus sur le programme, donc je pense que ça va être que 10 minutes, c'est ça? Voilà. Si vous voulez commander des pizzas, c'est par là.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de temps d'échange? Ce sera.
On a une table ronde. On a le temps.
Après,
on fait des questions.
D'accord.
Est-ce qu'on fait des questions maintenant ou pas?
On peut avoir peut-être une ou deux questions.
Oui, s'il y a une ou deux questions.
S'il y a deux ou trois questions brûlantes.
J'ai une question. Vous avez dit que dans l'hypnose, on ne peut pas aller contre les valeurs du sujet, mais est-ce qu'on en est vraiment certain?
Alors, moi, j'ai interrogé des hypnothérapeutes et il y a une documentation. En tout cas, l'hypnose, c'est depuis le 19e siècle, donc c'est très documenté. Et apparemment, enfin là, c'est toi qui pratiques l'hypnothérapie, Max. C'est ce que je lis de façon.
Je vous en dirai plus.
Oui. Un petit peu de patience. Oui. Voilà, mais sur le fait qu'on ne peut pas aller contre les valeurs du patient.
C'est ce qui semble être la pensée commune. Mais vous allez voir avec mon exposé qu'il y a beaucoup de zone de flou dans l'hypnothérapie parce que ça, elle pose le problème des moyens d'investigation en fait.
D'accord.
Et qu'en réalité, chaque cerveau, chaque individu est unique par définition. Mmh. Et son rapport à l'hypnothérapie, son rapport à l'hypnothérapeute, qui s'inscrit dans le cadre d'une relation très particulière, est difficilement, mettable en équation et on ne peut pas ranger les choses dans des boîtes comme ça en étant affirmatif. Alors il y a des tendances, effectivement. On a tendance à dire que ce que fait un patient sous hypnose, c'est ce qu'il a envie de faire en réalité. Voilà. Et que de toute façon, il y a toujours des résistances qui sont là, et tu l'évoquais, pour empêcher les gens de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. D'ailleurs, l'approche ericksonienne, elle développe beaucoup ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a deux,
Tout à l'heure. D'accord, non, mais c'est bien, voilà. C'est bien parce que c'est complémentaire, c'est plus.
J'aimerais rajouter justement à ce que quelque chose. J'ai entendu le cas d'une femme qui, sous une thérapie en hypnose, avait révélé, soi-disant, un viol dans sa petite enfance. Or, il s'était avéré que c'était faux, par exemple.
Donc, elle était alors ça, c'est la question des faux souvenirs.
Suggestion.
Ça, c'est effectivement là.
Si on prend aussi les exercices de comment ça s'appelle la télé Messler, ça s'appelle le jeune canadien là,
Ça
va loin.
Mais c'est là, je disais bien cadre déontologique, etc. Il ne faut pas confondre, à mon avis, l'hypnose de showbiz et puis l'hypnothérapie. C'est pas, là, on n'est pas dans le même cadre.
Non, mais c'était pour en souligner quand même la puissance et les effets, et où ça va quand même.
Oui.
Parce qu'on voit vraiment des gens faire des choses quand même.
Oui, mais comme me disait cet ami qui pratique l'hypnothérapie, si l'hypnothérapie était toute puissante, les dictateurs l'utiliseraient. Ça marcherait. Voilà, donc c'est pas. Je pense que c'est sain de ne pas attribuer à une technique une puissance magique. Alors, effectivement, il y a des risques, etc. Et c'est. Bloy là, le dit, surtout que ça s'adresse à des personnes vulnérables, qui ont un rapport d'attachement. Et c'est là la question, le rapport patient.
La question de l'hypnothérapie soulève la question de la manipulation, on va le voir. On est tous manipulables, à des degrés différents, par des choses différentes. Alors, est-ce qu'on est manipulable dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et jusqu'à quel point est-ce qu'on est manipulable? Est-ce qu'il y a une frontière? La frontière, elle est très variable d'un individu à l'autre, en fonction de son passé, de ses croyances, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué, et je ne pense pas qu'on puisse tirer des généralités d'une expérience particulière. Ce sont des espèces de panneaux indicateurs, comme ça. On ne peut pas mettre les choses comme ça dans les petites boîtes en disant c'est comme ci, c'est comme ça. C'est un sujet extrêmement compliqué.
Après, je pense qu'il y a des états différents d'hypnose.
Excusez-moi, regarder tout ça pour être
voilà.
Plus d'éléments pour réfléchir.
Voilà.
D'accord. Merci.